Ça vaut le détour.
Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 7 mars 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau début de semaine. Donc, on peut dire que le printemps s'en vient. Lundi 7 mars 2016, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal_m. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur les propos de nos invités. Aujourd'hui, on prend un peu d'avance et on regarde déjà qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Du 13 au 19 mars se déroulera la Semaine québécoise des popotes roulantes sous le thème « Un repas, un sourire, une vigie ». On parle du rôle que jouent les popotes roulantes dans la communauté avec le comédien Jacques Lheureux, porte-parole de l'événement. Il sera dans nos studios à 12h45. Du 13 au 19 mars 2016, c'est aussi la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle sous le thème « Comme on se rassemble ». Annick Larose, directrice de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, nous parlera des activités qui se dérouleront durant cette semaine. On découvre aussi le programme Biblio Aidant, un service d'information à l'intention des proches aidants coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. On reçoit Ève Lagacé, directrice générale de l'association. Lorsqu'un de vos proches ne peut plus s'occuper de lui-même ou de ses affaires à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une perte d'autonomie liée au vieillissement, vous devez penser au bien-être et à la sécurité de cette personne devenue vulnérable. Régime de protection privé et public, mandat d'inaptitude, gestion des patrimoines. Au Québec, c'est plus de 42 000 personnes qui sont représentées par un tiers, dont 13 000 sous la juridiction du curateur public. Pour démystifier un peu cette fonction, on s'entretient ce matin avec le curateur public du Québec, M. Normand Jutras. Bonjour, M. Jutras.
Bonjour.
Donc, on va commencer tout de suite, en fait, par définir votre rôle, car vous êtes le curateur public, mais c'est aussi le titre d'une fonction.
Oui. Alors, le curateur public, c'est la personne nommée par le gouvernement et c'est l'organisation aussi là, du curateur public qui voit à la protection des personnes inaptes. Alors, on entend par personne inapte, vous l'avez dit vous-même là, en début d'entrevue, c'est une personne qui est incapable de prendre soin d'elle-même ou qui est incapable de prendre soin de ses biens ou les deux à la fois. Alors, c'est essentiellement mon mandat.
Et donc, sur le plan juridique, c'est lorsqu'il y a un besoin de protection d'une personne inapte qui doit être assistée ou représentée dans l'exercice de ses droits civils. C'est à ce moment-là que le curateur public, en fait, on peut faire appel à ses services.
Oui, alors c'est ça. Quand la... Pour qu'une personne soit déclarée inapte, il y a un processus là qui doit être suivi, à savoir qu'il doit y avoir une évaluation médicale, une évaluation qui est faite par un médecin qui conclut à l'inaptitude de cette personne-là. Par la suite, il y a un travailleur social qui voit cette personne-là et qui détermine si la personne a besoin de protection. Et par la suite, ben là, il y a un processus judiciaire, il faut s'adresser à la Cour parce que l'inaptitude est prononcée par un juge de la Cour supérieure qui va déterminer est-ce que la personne sera confiée à un tuteur ou curateur privé. On entend par tuteur ou curateur privé, c'est quand c'est quelqu'un de la famille ou un proche qui accepte la charge là de s'occuper de cette personne-là. Mais quand ce n'est pas possible, nous, on privilégie toujours ça. On privilégie toujours que quelqu'un de la famille accepte la charge. Pourquoi? Parce qu'on considère, parce que nous sommes d'avis, que la personne va être mieux servie par quelqu'un qui la connaît, qui l'aime, qui connaît son histoire. Mais quand ce n'est pas possible, et ça pour différentes raisons là, dont je pourrais vous faire part, quand ce n'est pas possible, le curateur public, c'est le dernier recours. Alors, le curateur public prend charge de cette personne.
Justement, quels seraient les derniers recours qui feraient qu'on serait parmi ces 13 000 personnes dont vous assurez la protection?
Bien, en fait, le curateur public est tributaire là, de l'évolution de la société québécoise. Et quand ce n'est pas possible qu'un proche prenne charge, quand ça arrive, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent, comment ça se fait qu'il y a 13 500 personnes qui relèvent du curateur public? Bien, en fait, aujourd'hui, les familles sont plus petites qu'auparavant.
Mm-hmm.
Les familles sont plus dispersées. Par exemple, le père est à Sept-Îles, il y a un fils qui vit en Europe, puis l'autre qui est dans l'Ouest canadien. Il y a aussi, particulièrement sur l'île de Montréal, mais on commence à voir le phénomène plus en région aussi, des personnes qui sont complètement isolées. Non seulement des personnes seules, mais des personnes isolées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réseau, ni d'amis, ni de parents.
Mm-hmm.
Il y a aussi quand il y a de la discorde dans la famille. Et quand il y a de la discorde dans la famille, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est quel est l'intérêt de la personne inapte. Et souvent, le juge peut dire, ben là, c'est pas dans l'intérêt de cette personne-là de confier la tâche à un tuteur ou curateur privé vu la chicane qu'il y a dans la famille.
Mm-hmm.
Et souvent aussi, ce qui va se passer, c'est que peut-être telle personne aurait accepté la charge, mais vu le climat de discorde, à ce moment-là, dit, ben non, moi, je suis plus intéressé, là, je veux pas être surveillé pour chaque 30 sous, là, rendre compte, là, pour... La personne doit toujours rendre compte, tu sais.
Oui.
Mais là, elle se dit, ben là, dans un tel climat de méfiance et de non-confiance, moi, je suis plus intéressé à prendre la charge. Et dans ce cas-là, ben, plus souvent qu'autrement, le tribunal nous confie la personne. Alors, toutes ces causes-là font en sorte que des personnes se retrouvent à relever du curateur public.
Avez-vous des exemples pour nous de tâches qu'on ne peut plus accomplir si on est une personne inapte, juste pour que ça donne peut-être la puce à l'oreille à des auditeurs de se dire, oh, peut-être que c'est quelque chose, par exemple, si on pense à des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est progressif, il y a des changements dans le comportement, peut-être dans les capacités à prendre des décisions. À partir de quand est-ce qu'on devrait se pencher là-dessus et donc faire des démarches?
Bien, en fait, souvent dans beaucoup de familles, on a vécu cette situation-là. Par exemple, le grand-père ou la grand-mère là, qui commence à se désorganiser, comme on dit,
mm-hmm.
qui, par exemple, au niveau de son hygiène, là, n'a plus la même préoccupation qu'auparavant. Va faire des oublis, là, va par exemple laisser un chaudron sur le poêle, va connaître aussi des périodes d'errance, va se perdre à un moment donné dans le voisinage, alors que pourtant cette personne-là a toujours vécu là. C'est la personne qui à un moment donné en vient à ne plus par exemple pouvoir tenir son budget, savoir compter son argent. C'est la personne qui, à un moment donné, fait des oublis, en vient à tenir avec ses proches une conversation qui est désordonnée.
Mm-hmm.
Alors, souvent, là, les gens de la famille vont se dire, ben là, ça marche plus, maman, là, elle peut plus vivre seule. Et là, c'est souvent le scénario. Et là, la personne est hospitalisée. Et à partir de ce moment-là, ben les tests commencent. Là. Puis comme je vous parlais, il y a l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale et le tout est soumis au directeur général de l'hôpital, du CIS, là, du Centre intégré de santé et services sociaux, et c'est acheminé au curateur public. Et là, on intervient, une assemblée de parents, de proches, d'amis, et pour voir s'il y a possibilité que quelqu'un de la famille prenne charge. Sinon, ça, c'est dans le cas des... Ce qu'on voit souvent, là, la maladie d'Alzheimer, mais aussi notre clientèle, les personnes dont on s'occupe, ça se répartit de la façon suivante. 40%, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle. 30%, j'arrondis les chiffres, là, mm-hmm. 30%, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. 20%, ce sont des cas de maladies dégénératives, Alzheimer, démence sénile, et 10 % là, ce sont des cas de traumatisme crânien là, ou différentes autres causes. Mais par contre, Mme Pomerleau, ce que je veux porter à votre attention, et ce qui est tout à fait spécial, je vous disais que de toutes les personnes dont on s'occupe, 20 % ce sont des cas de maladies dégénératives, mais cependant, depuis quelques années, les nouveaux cas que nous avons, à 50 % ce sont des cas de maladies dégénératives. Pourquoi? En raison du vieillissement de la population, plus de personnes âgées, plus de personnes susceptibles de développer des maladies dégénératives. Alors, vous voyez, le 20 % du total des personnes, mais par contre, les nouveaux cas à 50 % ce sont des cas de maladies dégénératives. Et ce qui fait qu'au curateur public, depuis 5-10 ans, on connaît à chaque année une augmentation des personnes dont on s'occupe là, de 2 % par année. Mm-hmm. Et ça, bon an, mal an, là, c'est toujours cette même cause-là du vieillissement de la population, avec en plus le fait, je vous disais, plus de personnes âgées qui nous arrivent, mais un nouveau phénomène aussi depuis quelques années, des personnes âgées qui ont de l'argent. Ce qui n'était pas nécessairement, si on se reporte seulement il y a 15-20 ans, le curateur public principalement, on retrouvait là des personnes qui avaient une déficience intellectuelle avec un chèque de la sécurité du revenu, là, de l'aide sociale, et des personnes âgées qui avaient un chèque de pension de vieillesse, de sécurité de la vieillesse. Mais là, ça change énormément. Et il nous arrive des personnes âgées qui ont des patrimoines importants, des actions, des obligations, des REER, des CELI, des placements à l'étranger, des gens qui ont beaucoup d'argent. Le fait que les femmes aussi ont été plus sur le marché du travail, alors des personnes qui ont des pensions qui leur viennent, ils n'ont pas seulement la régie des rentes, ils n'ont pas seulement la sécurité de la vieillesse, mais ils ont aussi une pension de la CARA ou du REGOP. Alors, ça fait en sorte qu'au cours des 5 dernières années, les patrimoines qu'on nous avons à gérer pour ces personnes-là ont augmenté de plus de 50 %.
C'est des statistiques vraiment très intéressantes. Monsieur Jutras, il nous reste juste une petite minute. On a parlé des procédures qui sont à faire pour s'assurer de la protection, la bonne gestion de la personne et de ses biens. Combien de temps ça prend comme démarche une fois qu'on remarque qu'il y aurait un besoin jusqu'au temps que ça soit pris en charge?
Les procédures peuvent être un peu longues, effectivement. Là, on parle de six mois à un an, parce qu'il y a des délais de justice aussi à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Mais avant qu'on termine, Mme Pomerleau, je veux vous parler, moi, du mandat de protection et que vos auditeurs soient conscients du fait que l'inaptitude peut survenir à n'importe quel âge. C'est pas nécessairement relié au vieillissement. Ça peut résulter d'un accident.
Tout à fait. Comme on l'a dit, 10 % des gens sont des traumatisés crâniens.
C'est ça. Ou problèmes de santé mentale aussi qui peuvent commencer assez jeunes. Alors, il faut que les Québécois pensent au fait qu'il faut que chacun se pose la question, si je deviens inapte, qui va prendre soin de moi, puis qui va prendre soin de mes biens? Et c'est pourquoi, moi, le conseil que je donne toujours, et j'invite tous les Québécois à signer un mandat de protection, qu'on appelait auparavant le mandat en prévision de l'inaptitude, pour que, effectivement, la personne, quand elle devient inapte, bien, elle a déjà prévu la situation et elle a déjà prévu que c'est un tel qui va prendre charge de moi et qui va prendre charge de mes biens. Alors, c'est simple à faire, un mandat de protection. C'est vous prévoyez la situation, somme toute, et il y a deux avantages à cela. C'est beaucoup plus simple pour vos proches, parce que le mandat va s'appliquer, va devoir être homologué. Alors, c'est beaucoup plus simple pour vos proches. Et aussi, ça leur évite ce qu'on a vu dans bien des cas, quand il n'y a pas de mandat de protection qui a déjà été signé. Bien, on a vu que des fois, ça devient une source de tension et même de disputes au sein de la famille. Mm-hmm. Alors que si vous avez signé un mandat de protection, vous évitez bien des problèmes à vos proches. La décision aussi sera celle que vous voulez, vous, et non pas avoir laissé la décision aux autres, et peut-être que la décision qu'ils vont prendre quant au tuteur ou au curateur qui prendra charge de vous, mais ce ne sera pas la décision que vous auriez voulu.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Normand Jutras. Vous êtes curateur public du Québec. Merci de nous avoir sensibilisés à cette importance de se protéger. Merci beaucoup.
D'accord, c'est bien. Au revoir.
La belle Ariane Zita, sa pièce « Émile Néligan » tirée de son album « Oui, mais non », une parution de 2015. On continue à « Ça vaut le détour » toujours. On découvre aujourd'hui le programme Biblio-Aidant, qui est un service d'information à l'intention des proches aidants coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. J'accueille dans les studios Mme Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bonjour, Mme Lagacé.
Bonjour, Mme Carreau.
On va voir tout de suite, en fait, en quoi consiste le programme Biblio-Aidant. On en parlait un tout petit peu avant de revenir en ondes. C'est d'abord un projet régional qui était dans le sud de la Naudière et qui, depuis quelques jours, on a annoncé officiellement qu'il s'étendait maintenant à la grandeur du Québec.
Exactement. Donc, en fait, le programme a connu un tel succès dans les trois bibliothèques. On recevait beaucoup d'appels, en fait, de regroupements de proches aidants, de citoyens également, et évidemment de nos collègues bibliothécaires qui nous demandaient de pouvoir étendre ce programme-là sur tout le Québec. Et maintenant, c'est chose faite. C'est maintenant disponible dans plus de 524 bibliothèques au Québec pour l'instant. Et on attend encore d'autres collègues qui se joindront à nous très prochainement.
Mais justement, en quoi consiste exactement ce programme Biblio-Aidant?
En fait, Biblio-Aidant, c'est un service d'information à l'intention des proches aidants. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, ça prend la forme de 15 cahiers thématiques qui sont disponibles sur biblioaidant.ca. On y retrouve des ressources, différentes ressources d'information, que ce soit un répertoire d'organismes et associations, mais également toute une gamme de ressources documentaires, que ce soit des livres, des albums jeunesse, des DVD sur les sujets qui animent, en fait, là, les proches aidants, que ce soit sur des maladies ou, en fait, des conditions sur lesquelles ils vivent au quotidien.
Mm-hmm. On associe souvent proches aidants aux personnes aînées. mais vos cahiers, en fait, ratissent beaucoup plus large.
Exactement. En fait, il faut savoir qu'un proche aidant, ce n'est pas nécessairement un proche aidant d'aîné. Effectivement, on les associe, vous le dites si bien, on les associe souvent aux aînés, mais en fait, une personne peut être le conjoint d'une personne qui souffre d'un cancer. Ça peut être un parent, en fait, qui va accompagner son enfant qui vit avec une condition de déficience intellectuelle. Donc, vraiment, la proche aidance prend différentes formes. Puis, on a vraiment déterminé, en collaboration avec un regroupement de proches aidants, différentes thématiques qui pouvaient vraiment venir les aider dans leur recherche d'informations.
Quelles sont justement quelques-unes des thématiques que vous abordez?
Bien, en fait, de façon très générale, on a un cahier sur la proche aidance, donc le cahier proche aidant. On a le cahier, un cahier, par exemple, année vieillissement, le cahier cancer, mais si on donne des exemples qui vont toucher différentes clientèles, on a la déficience intellectuelle, le diabète, incapacité physique. Puis en fin de parcours, bien, on a également un cahier qui touche soins palliatifs et deuil, pour ne pas oublier là, cette partie-là du parcours de l'aidant.
Mm-hmm. Est-ce que c'était au départ, est-ce que c'était un besoin qui vous était souvent manifesté de regrouper des ressources, de l'information? Comment est-ce que vous en êtes venu à mettre ça sur pied?
En fait, c'est vraiment une réponse à une demande qui venait du regroupement d'aidants naturels du comté de l'Assomption, Laurent-Ca. En fait, ils nous avaient demandé de créer une bibliographie. Bon, plusieurs bibliothèques vont créer des bibliographies qu'ils vont mettre à la disposition des gens. Puis dès la première rencontre, nous, quand on s'est assis avec le regroupement d'aidants, on a réalisé que les aidants, en fait, manquaient cruellement de temps. Ils n'ont pas le temps de venir à la bibliothèque, de venir consulter un cartable, par exemple, qui serait mis à leur disposition. Il leur fallait un outil pratique qu'ils pouvaient consulter à partir de la maison. Donc, c'est de là l'idée de créer le programme Biblio-Aidant et qui maintenant est disponible sur le web, donc disponible pour tous les aidants dans le confort de leur foyer.
On le trouve à la fois aussi dans les bibliothèques, par contre, en format cahier tout de même disponible physiquement.
Exactement, pour consultation. Malheureusement, j'entendais votre prédécesseur parler de manque de financement. Donc, on a manqué des financements pour pouvoir aller faire de l'impression et pouvoir le rendre disponible facilement. C'est pour ça que c'est sur le web présentement. Tout le monde peut y accéder. Mais effectivement, les bibliothèques participantes y donnent accès. Mais aussi, on met en valeur la documentation qui est déjà disponible en bibliothèque. Donc, tous les livres, toute la documentation qu'on a. Et ça, évidemment, les bibliothèques participantes les ont dans leur collection et on invite les aidants à venir utiliser ces ressources-là qui étaient déjà là, mais on les met en valeur.
Tout à fait, qui peuvent être parfois aussi plus personnalisées selon la région où est-ce que l'aidant se trouve.
Exactement.
Avec l'aide de qui vous avez rédigé ces cahiers? Qui a participé à vraiment l'information qu'on y trouve?
En fait, c'est une équipe de bibliothécaires diplômés qui a vraiment fait toute la recherche d'informations pour pouvoir vraiment identifier, là, selon des critères de sélection bien précis, les différents ouvrages qui en feraient partie. Même chose pour toute la recherche d'informations qui fait le tour des différentes associations et les organismes qui font partie de Biblio-Aidant. Puis on a travaillé de concert également avec le regroupement d'aidants naturels du Québec pour pouvoir nous orienter à l'intérieur de tout ça. Puis la grande majorité des informations ont aussi été validées par les associations nationales de santé.
Donc, c'est vraiment plusieurs joueurs qui sont intervenus finalement pour s'assurer d'avoir le meilleur produit fini. Combien de temps ça a pris, ça?
C'est un travail colossal, là, je vous dirais, là, du départ là, du projet local qui s'est fait de façon un petit peu plus rapide, je vous dirais, là, jusqu'au projet national. Là, je vous dirais, la mouture actuelle, là, c'est un gros 2 ans et demi de travail pour pouvoir vraiment bien faire les choses. Puis par la suite, il y aura une mise à jour annuelle de chacun des documents. Puis, il y aura une version anglophone, en fait. Mais ça, vous comprenez, là, c'est vraiment une recherche de contenu. C'est pas une traduction. Il faut faire une recherche de contenu original là, pour ça. Donc, il y aura une version anglaise qui sera disponible d'ici la fin de l'année 2016.
Justement, une mise à jour annuelle, ça implique quand même beaucoup de travail en continu, pratiquement, surtout si on considère notre système de santé et de services sociaux subit beaucoup de changements, même parfois dans la même année. qui travaille à relever ces changements-là et à s'assurer que ça soit dans la prochaine version?
Oui, bien, en fait, on a un comité de bibliothécaires qui est déjà constitué, qui travaille déjà sur ça, selon différents critères de sélection bien déterminés, là. Donc, une fois les critères de sélection qui ont été déterminés, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire le suivi par la suite.
Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ces critères de sélection bien précis?
Oui, bien, en fait, là, je vous parlais, par exemple, pour tout ce qui est qui fait partie des ouvrages. Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'ira pas vers rien de tendancieux. Bon, on a un titre, j'ai pas le titre en tête, là, mais je vais faire allusion un titre en particulier là, dont on parlait dernièrement là, sur l'autisme. Mm-hmm. C'est bien, bien certain, ce type d'ouvrage-là, un petit peu trop tendancieux pour faire partie du cahier autisme. Par contre, il y a plusieurs... dans nos critères de sélection, il va y avoir le fait que le document va avoir été paru dans les 5 dernières années. Ou sinon, qui est vraiment considéré comme un incontournable. Par exemple, les livres de Montbourquette sur le deuil, ben ça fait plus de 5 ans qu'ils ont été parus. On les conserve quand même parce qu'on les considère comme étant des incontournables. Également, on essaie d'aller de viser le grand public parce que les proches aidants, bon, c'est vraiment... sont vraiment constitués de membres du grand public, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin quand même parce qu'on considère que ces personnes-là deviennent quand même des spécialistes des maladies et conditions que vivent leurs proches. Donc, sans aller nécessairement dans de l'information professionnelle, là, on va quand même un petit peu plus loin. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a dans nos cahiers, on donne des bases de données on ne veut pas aller dans le trop spécialisé, mais on veut quand même donner les outils pour les personnes qui veulent chercher encore plus loin. Là, on leur donne ces outils-là pour pouvoir aller chercher l'information qui les intéresse.
Oui, de eux-mêmes, qui puissent finalement prendre en charge leur propre recherche puis approfondir un sujet qui les touche.
Exactement,
particulièrement.
C'est ça.
Comment je fais pour savoir si ma bibliothèque participe au projet?
C'est tout simple, biblioaidant.ca. Il y a un onglet bibliothèque participante. Tout est regroupé par région. C'est très facile de s'y retrouver.
Si on veut contribuer ou soutenir ce beau projet, comment on fait? Est-ce qu'on peut être appelé aussi à participer?
Oui, en fait, si vous connaissez des ressources que vous considérez qu'on devrait vraiment évaluer, on vous invite à le faire sur le site Internet. C'est facile de retrouver sous l'onglet Contact. On vous invite à nous soumettre, en fait, soit des ressources ou encore des titres. À ce moment-là, nous, le comité d'évaluation va en tenir compte. Puis ce sera peut-être dans la prochaine version.
Dans la prochaine mouture.
Exactement.
Super biblioaidant au pluriel, aidant.ca. On va mettre le lien sur la page de notre émission. Plusieurs activités aussi à venir, des conférences. On n'a pas eu le temps de l'aborder ce midi, mais on peut avoir toute l'information en ligne. Ève Lagacé, vous êtes directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic CVLD ou sur Twitter avec @ et canal barre de soulignement M. On poursuit notre émission. C'est la chronique mensuelle de l'Association québécoise pour l'intégration sociale, l'ACIS. Et je reçois dans les studios de Canal M, Mme Annick Larose. Bonjour.
Bonjour.
Donc, cette chronique mensuelle, comme on fait souvent à Canal M, on donne la tribune à plusieurs organismes, plusieurs partenaires. Et cette semaine, en fait, on va parler d'un événement très important qui a lieu la semaine prochaine, qui commence le 13 mars jusqu'au 19 mars, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle.
Oui, c'est la 28e semaine, donc ça fait quand même plusieurs années. Il faut se rappeler que l'ACIS a 65 ans, donc ça fait la 28e semaine. Donc cette année, donc du 13 au 19 mars, le thème, c'est « Comment on se ressemble ». Donc, on espère toujours porter l'attention sur les similitudes qu'on a entre les personnes qui sont typiques, disons, comme ça, et les personnes qui ont une déficience intellectuelle, et de constater, dans le fond, qu'il y a beaucoup plus de points qui nous, qu'on se ressemble, qu'on est dissemblant, là. Donc, c'est un élément qu'on veut vraiment ressortir et puis de voir également la contribution positive des personnes qui ont une déficience intellectuelle dans la société québécoise. Cette année, on a encore comme porte-parole Vincent Guillaume-Otis, le comédien qu'on voit un peu partout, la série noire, plusieurs séries à la télévision. Et puis, Gabrielle Marion-Rivard, qui est la Gabrielle du film de Louise Archambault, donc qui revient cette année là, comme porte-parole.
C'est la Gabrielle du Québec, j'oserais même dire.
Oui, oui, elle est très lumineuse. On est très, très, toujours contents de l'avoir avec nous.
Et les deux comédiens s'étaient d'ailleurs rencontrés sur le tournage de Gabrielle par Louise Archambault. Ce thème-là, comme on se ressemble, justement, je remarque justement que c'est bien de mettre l'accent sur ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble aussi. On a tendance à beaucoup, dans les médias, à beaucoup mettre l'accent plutôt sur ce qui est différent, plutôt sur ce qui nous sépare ou ce qui peut sembler nous éloigner.
Oui, ben nous, on a vraiment voulu donner cet angle-là, justement pour essayer de casser cette habitude-là, parce que la différence, elle est facile à voir, mais la ressemblance, je pense que c'est là que vient le travail de sensibilisation, le travail d'éducation, le travail de mise en contact également, parce que nos associations organisent partout à travers le Québec toutes sortes d'activités. Là, ça peut être des brunchs, ça peut être des comédies musicales. Il y a vraiment, là, sur notre site Internet, là, j'invite les gens à aller voir sur notre site Internet, il y a différentes activités partout au Québec. C'est vraiment pour aller à la rencontre des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et cette année, je tiens à dire aussi qu'on a voulu donner une petite couleur un peu particulière aussi et de focusser sur l'angle de l'emploi. Donc, l'importance pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle d'avoir un emploi, d'être actif, de pouvoir contribuer à la société selon leur choix, selon leur goût également. Mm-hmm. Donc, nous, à la CIS, on travaille vraiment fort pour développer justement et faire la sensibilisation auprès d'employeurs qui pourraient, parce qu'on sait qu'on y a un grand besoin de main-d'œuvre. Donc, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui sont reconnues pour étant des personnes qui sont assidues, qui aiment leur travail, qui mettent beaucoup de cœur à leur travail, de pouvoir trouver un emploi, c'est quelque chose qui peut changer une vie pour eux.
Tout à fait. Faut le dire aussi, il y en a plusieurs qui ont une scolarité, donc
Oui, puis il faut savoir qu'en déficience intellectuelle, 80 % des personnes qui ont une déficience intellectuelle ont une déficience intellectuelle légère. Donc, et ça peut être, on parle de l'emploi, mais ça peut être également au niveau du travail. Nous, on fait toujours un peu une distinction, là, travail, une occupation. Donc, c'est important qu'une personne qui est rendue adulte puisse avoir une activité valorisante, pouvoir s'accomplir et au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de ça a plein d'avantages. Et nous, à la CIS, on se refuse à penser que, parce que la scolarité est terminée à 21 ans, que ces personnes-là tombent dans un trou puis qu'il n'y a plus rien pour elles.
Tout à fait.
Alors, la semaine, c'est une belle occasion de le rappeler.
De le rappeler. Et justement, dans cette semaine, il y a plus de 80 associations qui sont membres de la CIS, nombreux partenaires aussi partout dans le Québec qui ont mis sur pied des activités. Donc, on va prendre quelques minutes pour cibler quelques activités phares de cette nouvelle édition.
Oui, écoutez, il y en a vraiment dans toutes les régions. Là, c'est difficile pour moi de les nommer. Le mieux, ce serait vraiment d'aller sur notre site déficienceintellectuelle.org. Vous les avez vraiment, il y a un onglet Semaine québécoise, et puis ils sont vraiment divisés par région. Mais je peux vous dire qu'à Montréal, bon, présentement a lieu l'exposition Un œil différent, donc qui est une exposition très intéressante où là, on a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui exposent leurs œuvres, mais également des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle qui exposent. Et on ne sait pas quelle est laquelle. Pourquoi? C'est pas nécessaire de savoir pour pouvoir apprécier les œuvres qui sont exposées.
On avait reçu justement dans une de nos émissions, il y a une ou deux semaines, les gens responsables d'un œil différent qui a lieu jusqu'au 19 mars à l'Écomusée du Fiermonde.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un bel événement. Et puis, il y a également à Tangente, par Tangente, on a profité un petit peu de cet événement-là, la création d'une œuvre de la compagnie Maïwenn et les Orteils, donc c'est une compagnie de gigue contemporaine. Et dans cette compagnie-là, Gabriel Marion Rivard. Donc, ce sont des danseurs qui ont été formés par les Muses, le centre de formation professionnelle, là. Les Muses qu'on connaît. Et donc, c'est présenté par Tangente et par la Biennale de Gigue contemporaine au Monument national. Donc, c'est le 16, le 17 et le 18 mars. Mais nous, le 16 mars, on profite de cet événement-là pour faire un clin d'œil un petit peu à la semaine.
Mm-hmm. Ça s'inscrit vraiment dans la semaine. Il y a aussi le vernissage de vélos.
Oui, bien ça a eu lieu parce que un œil différent commençait un peu plus tôt. C'était samedi dernier. Donc, c'est une compagnie qui nous avait approché de vélos électriques. Et qui souhaitaient que des personnes peignent ces vélos-là. On leur avait dit, bon, ils sont bien vos vélos, mais on aimerait ça qu'ils deviennent presque des œuvres d'art. Mm-hmm. Donc, ils nous ont approchés à la KIS, étant donné qu'on a notre programme là, qui s'appelle Prêt disponible et capable, qui travaille, qui fait du démarchage auprès d'employeurs. Et on les a mis en contact avec la gang à Rambroux. Donc, des artistes de la gang à Rambroux et qui ont travaillé très fort et qui ont été rémunérés là, à leur... selon leur talent, pour leur travail, comme monsieur et madame tout le monde, pour justement peindre ces vélos et que chacun des vélos, en quelque sorte, devienne une œuvre d'art. Donc, il y avait une présentation de ces vélos-là avec la compagnie.
Est-ce qu'on va voir ces vélos-là en circulation ou si oui. On n'était pas présent au vernissage, comment est-ce qu'on peut voir ces œuvres?
On peut les voir en circulation. Je pense qu'ils vont être en vente donc, et à poser justement là, sur chacun des vélos qu'il leur a fait et tout ça. Donc, ça donne une couleur. Et puis, il faut savoir aussi que la direction de cette compagnie-là est très sensibilisée à la cause de déficience intellectuelle. Je pense qu'elle a elle-même... une sœur qui a une déficience intellectuelle. Donc, c'est là qu'on voit que tous les réseaux, puis quand les gens sont sensibilisés, qui connaissent, qui ont dans leur entourage une personne, mais qui prennent le temps aussi de connaître la déficience intellectuelle, mais là, ça a des impacts très, très positifs, tant sur les gens que sur, dans le fond... parce que la peur entourant la déficience intellectuelle vient beaucoup de la méconnaissance mm-hmm. et du manque d'éducation.
Bien, c'est là où, justement, la KIS intervient, en fait, pour faire tomber des barrières.
Bien, nous, c'est notre rôle. On a un rôle de sensibilisation. Donc, ça, c'est important de le faire. C'est pour ça qu'une semaine comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de temps d'antenne, je vous dirais, au niveau mm-hmm. médiatique et de pouvoir, au niveau de la population en général, semer une petite graine en souhaitant que ça va pousser. Mais c'est sûr qu'il y a des actions tant au niveau de l'intégration. C'est pour ça que nous, on est très favorable à l'intégration dans toutes les sphères de la vie d'une personne qui a une déficience intellectuelle parce que ça permet justement, par exemple, en garderie, un jeune enfant qui est en contact avec son camarade qui a une déficience intellectuelle, bien, il va éventuellement grandir, puis il n'y aura pas cette idée extrêmement péjorative ou de préjugés là, entourant la déficience intellectuelle, comme on voit malheureusement vers des personnes qui sont plus âgées aujourd'hui, qui n'ont pas eu contact mm-hmm. du tout avec cette réalité-là.
Justement, on parle les activités qu'on a nommées, c'est beaucoup elles sont beaucoup liées au domaine des arts, oui. à la réalisation et à l'implication en fait des gens dans le milieu des arts. Est-ce que vous croyez que c'est un vecteur qui rejoint facilement les gens?
Bien, moi, j'y crois beaucoup. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y a les sports, hein? il y a d'autres vecteurs. C'est sûr que moi, à la base, en étant moi-même, je suis musicologue de formation, donc j'ai tout un parcours en art. Donc, c'est sûr que moi, ça vient me rejoindre particulièrement. Oui, je crois que c'est un vecteur parce que aussi, dans le domaine des arts, ça permet... la différence, elle est plutôt connue, reconnue, elle est plutôt valorisée peut-être aussi. Mm-hmm. Culturellement, les artistes souvent sont peut-être un peu moins connus ou reconnus. Donc, on a une réflexion un peu aussi par rapport à la vie, le sens de la vie, la valeur de la vie et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être un terreau qui est propice à ça. Donc, ça, oui, ça, je pense que ça rejoint. Puis aussi, il y a plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont un besoin de s'exprimer, puis que par les arts, ça leur permet justement de s'exprimer. Mais c'est une chose, moi, ça fait partie un peu de mes marottes, c'est une chose de pouvoir participer ou de pouvoir faire, mais je pense qu'il faut amener encore plus les personnes qui ont une déficience intellectuelle à assister à des manifestations culturelles. Mm-hmm. Ils ont tout à fait la possibilité d'aller dans des concerts, d'aller dans des expositions, de pouvoir apprécier Et c'est pas parce qu'on a certaines difficultés au niveau de la compréhension qu'une œuvre ne peut pas venir nous rejoindre. Peut-être qu'on ne pourra pas en faire une, on ne pourra pas la décortiquer puis en faire une critique d'art qui va apparaître dans le devoir, sauf qu'être capable de l'accueillir et de vivre des émotions par rapport à cette œuvre-là, moi, je trouve que ça vient toucher le fondement même de ce que c'est l'art.
C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cette chronique mensuelle de la KIS. Annick Larose, vous êtes présidente de la...
Directrice,
de l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Vous êtes venue nous parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 13 au 19 mars 2016. On va certainement en reparler encore sur nos ondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
T'es belle à voir aller, t'es belle à voir, la tête baissée, gonflée d'espoir, les doigts croisés pour m'y croire. T'es belle à voir, t'es belle à voir aller, quand tu transformes la rouille en or, quand tu vas jusqu'au bout. Quand sans avertissement, tu changes de trajectoire. Quand tu déjoues le mauvais sort, t'es belle à voir. T'es belle à voir aller. T'es belle à voir aller. T'es belle à voir. La tête baissée. Fonce dans le noir, les doigts croisés pour mieux y croire. T'es belle à voir, heureusement que t'es là quand j'ai plus le goût de me relever, quand je rêve au mois d'août, en plein milieu de janvier, tu débarques en coup de vent, déguisé. T'es belle à voir aller. T'es belle à voir aller. Quand tu te mets à l'ouvrage, quand tu réponds présente, c'est pas que je suis jaloux, mais j'ai pas ton talent. Si j'avais ton courage, même à peine 10%, je me tiendrais debout de temps en temps. T'es belle à voir aller.
Alors, j'avais perdu ma petite feuille. C'était Frédéric Giroux avec sa pièce « T'es belle à voir aller » tirée de son album « Le deuxième souffle », une parution en 2016. On parlait, j'en parlais en début d'émission, du 13 au 19 mars, c'est aussi la semaine québécoise des popotes roulantes. Et pour connaître les popotes roulantes, pour constater le rôle qu'elle joue dans la communauté, on vous rediffuse une lecture de texte de ce matin qui était dans les voies de service animée par Clotilde Desseilles sur les popotes roulantes. On revient tout de suite.
Alors moi, mon premier article donc s'intitule « Centropole roulant plus qu'une popote roulante ». Comme je vous ai dit, c'est la semaine prochaine des popotes roulantes. Et le regroupement des popotes roulantes réunit 150 organismes bénévoles répartis dans 15 régions du Québec. Il y a des millions de repas qui ont été livrés depuis que le Centre d'action bénévole de Montréal, en collaboration avec l'Ordre victorien des infirmières et plusieurs bénévoles, ont mis sur pied la première popote roulante à l'église anglicane Saint-Mathias de Westmount, il y a 50 ans. L'âge moyen de la clientèle est de plus de 70 ans. Ce sont en général des gens en perte d'autonomie qui ont de la difficulté à cuisiner ou ne peuvent se nourrir convenablement, mais désirent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Alors voilà, une popote roulante, le Centropole roulant, qui est plus qu'une popote roulante, vous allez voir. On l'appelle maintenant le roulant. Ce centre communautaire, né d'une popote roulante mise sur pied par deux jeunes anglophones en 1995, déjà bénévole pour une popote roulante et serveur au café Centropole où se côtoient des gens de tous âges, ils ont décidé de créer leur propre organisme face à ce café à l'angle des rues Duluth et Saint-Urbain. Cet organisme, ils l'ont voulu rassembleur, réunissant jeunes et aînés pour former une communauté intergénérationnelle dynamique. Initiative exceptionnelle, Centropole roulant a livré en 20 ans 500 000 repas chauds, sains et nutritifs à des personnes âgées en perte d'autonomie. Nous livrons environ 100 repas par jour, 5 jours par semaine, sur le vaste territoire entourant le Mont-Royal. Nous sommes l'une des plus grosses popotes roulantes au Québec, précise fièrement Catherine Descaries, la directrice de cette popote. Notre territoire a un peu changé en 20 ans, mais le service s'est amélioré en qualité. Le roulant a grandi en développant de nouvelles branches axées sur la sécurité alimentaire. Ainsi née d'un modèle unique, la sécurité alimentaire basée sur un continuum assurant la traçabilité des aliments, du jardinage à la livraison. Dès le début, on cuisinait dans le local de la rue Saint-Urbain et ça sentait bon. Mais vers 2005, voilà que l'université McGill propose à Centropole de verdir un espace bétonné qui couvre les salles de cours. Ce furent nos premiers jardins sur les toits. On a ainsi pu ajouter des légumes frais et bio au repas de la popote roulante et des bénévoles sont devenus jardiniers. C'est une des forces du roulant, de dire oui à des initiatives de nos bénévoles et partenaires, ce qui nous a permis d'être innovants. L'autre jardin, maintenant, est situé sur le toit de l'édifice plus vaste où l'organisme a déménagé en 2010, au 111 rue Roy-Est. On y pratique également de la culture en bac à réservoir d'eau. Et pourquoi pas une ferme ? En 2012, le roulant ne peut refuser l'occasion qui lui est offerte et lance une ferme périurbaine à Seineville. Ça permet d'augmenter notre quantité de légumes frais et d'approfondir nos connaissances. Les jeunes stagiaires y travaillent avec de vrais fermiers. Or, le roulant se veut aussi un lieu de formation pour les jeunes. Tout cela est passionnant, poursuit Catherine, enthousiaste, puisque la sécurité alimentaire, c'est aussi savoir d'où viennent les aliments. C'est ainsi que le roulant comble les besoins d'une clientèle qui ne peut les satisfaire elle-même. Certains clients sont en attente d'hébergement, d'autres sont avec nous depuis 15 ans. D'autres encore sont des clients ponctuels qui font appel à nous à la suite d'un accident, par exemple. Ils nous quittent aussitôt rétablis, ce qui nous fait plaisir car on encourage l'autonomie alimentaire. Tous sont assurés de déguster des repas frais et sains, faits de légumes et de viande bio, sans salade ajoutée.
Wow.
Ouais, nous respectons aussi les préférences alimentaires de chacun. Une telle n'aime pas la tomate, elle n'en aura pas. Nous sommes aussi l'une des seules popotes roulantes à offrir des mets végétariens. Le plus, les clients et les jeunes bénévoles se rencontrent, jasent, tissent des liens. C'est ainsi que certains préjugés générationnels disparaissent. Centropole roulant rassemble des personnes de tous âges et de différents milieux autour de la nourriture et de l'engagement communautaire. Les ateliers communautaires qui visent à favoriser le transfert des connaissances en alimentation en sont un bon exemple. Ces ateliers ont toujours existé, rappelle Catherine Descaries. Aujourd'hui, ils sont plus structurés que les autres années. On tente de répondre aux besoins identifiés. Par exemple, on a offert aux jeunes qui s'installaient en appartement et ne savaient pas cuisiner. Plus récemment, des ateliers intergénérationnels ont réuni des aînés qui venaient partager leurs meilleures recettes avec les bénévoles. Ce fut une réussite. En plus de valoriser l'aîné et de partager le savoir, ces ateliers favorisaient l'inclusion sociale. Il en est même sorti un livre réunissant certaines de ses recettes. Ce livre s'appelle « Recettes de nos aînés » et il est en vente en ligne au centropoleroulant.org/fr. Voilà, Centropole roulant est vraiment impliqué dans la communauté et offre à tous certains services et activités. Donc, si vous voulez plus d'informations, bien, vous pouvez chercher au centropoleroulant.org ou téléphoner au 514 284 93 35.
Alors, c'était un texte lu par Franceline Nieuwer ce matin dans les voies de service animées par Clotilde Seille. Du 13 au 19 mars, je le disais en début d'émission, il sera la voix du regroupement des popotes roulantes sur la scène nationale. Comédien bien connu du grand public, j'accueille en studio M. Jacques Lheureux. Bonjour.
Bonjour Maxime.
Donc, je vais y aller tout de suite, en fait, vraiment dans votre implication. Vous êtes le porte-parole de la Semaine québécoise des popotes roulantes.
Oui, miam miam.
Oui, exact. Ça creuse l'appétit. D'abord, on pourrait dire qu'est-ce que les popotes roulantes et comment est-ce que vous avez été approché par l'organisme?
Les popotes roulantes, c'est un service qui est offert à la population pour apporter de la nourriture à des gens qui sont esselés, qui sont en convalescence ou qui vivent une passe difficile. Puis ça permet de partager un repas avec quelqu'un qui est seul, quoi. Mm-hmm. Et puis, de mon côté, on m'a demandé d'être le porte-parole. Alors, je me suis donné comme mandat d'inciter les gens à devenir bénévoles parce que les popotes roulantes ont besoin de bénévoles. Je parlais avec un jeune réalisateur ce matin dont le père qui vit à... pas Havre-Saint-Pierre, mais à côté, là, voyons, cette île. Lui, il fait ça. Il va porter des repas à des gens qui... C'est souvent des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie et donc c'est un service aussi de vigilance. Alors, on peut voir cette personne-là, voir si elle va bien. Et si elle va moins bien, peut-être avertir les gens que peut-être que monsieur ou madame Untel aurait peut-être besoin d'un peu plus d'aide de la communauté. Alors, c'est un service assez essentiel, beaucoup en région, dans toutes les régions du Québec. Et c'est une belle chose que de donner son temps à d'autres.
Vous avez eu l'occasion dans le passé d'aller vous-même porter des repas avec la popote roulante. Comment s'est passée votre expérience?
Ça a été vraiment enrichissant. J'ai porté un repas. On était deux qui sont allés porter un repas. On a mangé avec la personne, c'était une dame. Et puis, dans 2 heures, on a eu une communication vraiment formidable. J'ai appris beaucoup sur la vie de cette personne-là, sur son cheminement de vie. Et c'est aussi enrichissant pour moi que pour cette personne-là qui s'était mis toute chic, d'ailleurs, pour nous recevoir. C'était vraiment très cute. Puis... on a partagé un beau moment d'humanité ensemble.
Comment est-ce que ce mandat-là des popotes roulantes vous rejoint, vous en particulier? Est-ce que vous avez dans votre réseau peut-être des gens qui reçoivent des services de la popote roulante? Est-ce que
non,
l'alimentation, c'est quelque chose...
Moi, je suis dans les privilégiés dans notre société. Puis ma famille aussi, c'est dans les privilégiés de la société. Mais par contre, on a été élevés pour dire, regarde, nous, on est très, très chanceux, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont moins, puis pas nécessairement... ça peut être de façon ponctuelle que les gens ont besoin d'aide. Quelqu'un en convalescence d'un accident ou d'une maladie ou quelque chose, la popote roulante peut lui offrir un repas, et puis ça va juste aider à sa convalescence. Mais c'est souvent pour les personnes âgées, souvent qui ont moins de monde autour d'eux, parce que plus on vieillit, moins de monde qu'on a autour de nous. Et c'est le fun d'aider, d'aller jaser avec une personne en partageant un repas. C'est le fun. Puis ceux qui ont peut-être moins de jasette comme moi peuvent aussi servir de bénévoles dans les cuisines. Parce que les popotes roulantes, dans votre région, ils cherchent aussi des personnes. Moi, j'adore faire la cuisine. Alors, pendant la semaine, on va aller en faire de la cuisine, puis on va essayer d'inciter les gens à devenir bénévoles, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est le mandat que je me suis donné.
Mm-hmm. C'est cette mission-là que vous vous donnez, justement, on le dit...
une mission, ça sonne...
C'est vrai, c'est pas une mission.
Un mandat, j'aime ça, le beau mandat, mais le mandat de bénévole, là. C'est le fun de faire du bénévole.
Oui, puis justement, c'est un service essentiel pour 30 000 personnes au Québec, c'est beaucoup de gens... par les bénévoles qui sont impliqués dans les cuisines,
sur
place
la route,
aussi,
exact.
Sur la route. C'est beaucoup de gens avec lesquels on peut créer un réseau,
absolument,
finalement.
Absolument, absolument, absolument. Et puis, c'est un réseau de vigie en même temps, comme j'expliquais, là, tu sais. On peut voir si tout va bien. chez madame ou monsieur. Ça, c'est bien ça aussi.
Donc, c'est au-delà de seulement s'assurer de bien manger.
Exact.
C'est s'assurer tout simplement du bien-être des personnes qu'on visite.
Tout à fait.
Et on le rappelle qu'ils sont souvent en perte d'autonomie. Mm-hmm. Si on a envie de faire comme vous et de s'impliquer aussi...
Oui.
Comment est-ce qu'on fait? On peut aller voir en ligne sur le site web, on va le mettre sur la page de l'émission.
Oui, mais devenir bénévole, c'est pas plus compliqué qu'un appel téléphonique. Hein? Tu appelles les popotes roulantes dans ta région, puis tu dis, ben moi, samedi matin, puis dimanche, je pourrais y aller, donner une couple d'heures. C'est aussi simple que ça.
On va suivre ces conseils-là. On va vous soutenir dans votre mandat. Donc, Jacques Lheureux, vous êtes porte-parole de la Semaine québécoise des popotes roulantes du Québec qui se passe sous le thème « Un sourire, un repas, une vigie ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les studios.
C'est un beau thème. Hein?
C'est un très, très beau thème. Je remercie mes invités de l'émission, Jacques Lheureux, Annick Larose aussi, de l'ACIS, Ève Lagacé, de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. On avait commencé l'émission avec M. Normand Jutras, curateur public du Québec. Demain, on s'entretient avec Bonnie Brighton, directrice exécutive nationale du Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. On souligne le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, en faisant un petit bilan des acquis, mais aussi des défis à relever. Je remercie mon équipe technique, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnard, recherche et médias sociaux. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.